Dascritch, tu nous vas nous parler de quelque chose.
Ouais, j'avais dit que je flinguerais la presse. Ouais. Enfin, c'est un truc qui me courait depuis un bail. Bonjour à toi, enfant du futur immédiat, toi qui nous écouteras dans quelques secondes. Alors, je ne sais combien de fois j'ai entendu des hommes politiques dire du Minitel qu'il est l'ancêtre d'Internet. Bon, rien n'est plus faux, le Minitel était archi-centralisé, la facturation à la minute, et pour ouvrir un service, il fallait un numéro de commission paritaire. Et donc être adossé à un quotidien ou une revue qui paraît en
kiosque. Ou une radio.
Oui, parce qu'on avait un numéro de commission paritaire, c'est vrai. Ce qui permettait à la presse d'alors d'avoir de confortables revenus avec des surprises. Ainsi, le service d'emploi temporaire 3615 Echo utilisait le numéro de commission paritaire de la revue chrétienne intégriste Droite Extrême Droite, qui éditait aussi des services de messagerie ouvertement pornographique. Mmh. Aujourd'hui, en notre époque moderne d'Internet, tu n'as besoin d'aucune formalité pour ouvrir un site web. Et comme par hasard, la presse française crie famine. Ils ont bien tenté plusieurs fois d'obliger l'attribution d'un nom de domaine se terminant en .fr à un numéro de commission paritaire. Heureusement, ils se sont fait rembarrer à chaque fois. Or, la vente de papier diminue, très fortement. Et Internet est censé être le futur de la presse, sur un modèle freemium. Il y a une partie gratuite et une autre partie qui est derrière un paywall. Faut payer pour lire derrière. Et tout le problème réside dans cette double valorisation du travail journalistique. L'abonnement à un quotidien ou à un hebdomadaire, même en version numérique, est hors de prix, surtout quand on compare aux pure players. Et si vous vous abonnez à un ou deux titres, vous resterez dans le confort d'issue sans chercher un autre éclairage. C'est un réflexe qui est soi-disant humain de repli sur soi où on va chercher l'info qui conforte ses opinions, pas celle qui les choque. On appelle ça aussi la Fox News It. L'achat d'un journal complet, genre le quotidien du jour, ne décolle pas. Bon, alors là, le principal problème, c'est qu'en étant en dessous de 5 euros, on est dans des sommes que l'on qualifie de micro-paiements et où les intermédiaires margent à plus de 30%. Donc c'est pas très intéressant. L'achat à l'article ne décolle pas d'autant. Et finalement, il valorisera plus un journaliste qu'un organe de presse. Par exemple, il y a l'application Blendle qui propose un guichet unique pour acheter l'article qu'on veut lire dans un journal, dans n'importe quel journal d'ailleurs. Et une application faite par des Allemands, ça fait un petit peu peur à nos journaux franco-français. Et d'ailleurs, ça ne marche que sur un téléphone portable, iOS ou Android, point de salut sur PC ou tout le reste. Ah, bon, d'accord, ok. Alors les journaux français continuent de blinder de pubs les articles gratuits. Si vous consultez sur des sites de quotidien ou d'hebdo français, vous êtes saturé de pubs avant de lire l'article. On commence par deux pubs vidéo en pré-roll, une bannière surgissante qui se secoue, une popine qui recouvre complètement la page, une bannière qui descend sur le texte tout doucement, tu vois, très bien, voilà. Une vidéo qui se lance en plein milieu de votre lecture au moment où vous descendez avec la musique à fond, tant qu'on y est. Des carousels animés sur le côté ou en plein milieu d'un chapitre. Des mots de l'article qu'il faut surtout pas survoler à la souris sous peine d'être envoyé sur un autre site. Des pubs qui interceptent ma navigation et me renvoient directement sur Google Play ou l'Apple Store. Le Point qui insiste pour que je m'inscrive à sa newsletter, Le Monde qui me propose un mode zen, entre guillemets, formal foutu, L'Express qui me demande ma position géographique, d'ailleurs je me demande bien pourquoi. Et comme ces pubs arrivent en cours de lecture, eh ben ils créent ce que l'on appelle un reflow. Alors le reflow, c'est un phénomène désagréable où la mise en page bouge et qui est strictement à éviter sur un site web. L'œil du lecteur est donc perdu. La ligne qui disait passe brusquement à droite, puis tout en haut, et en fait, non, attends, il est parti plus bas que la partie visible, il faut que je scrolle. Et si d'emblée, tu attends d'avoir une page qui ne bouge plus, au bout de 4 ou 5 minutes, t'es bien dans ton article en train de le lire, la page se rafraîchit complètement, sans aucune raison, sinon celle que de changer les bannières de pub, ce qui achève totalement ta volonté de lire un article de fond. Je n'oublie pas que tous ces sites me font chier à me redemander de télécharger leur application mobile qui ne me permettra pas de zoomer, de souligner le texte ou de récupérer l'adresse URL de l'article. Et enfin, j'ai gardé le pire fail pour la fin, le site Truc89 qui est strictement inconsultable sur certains mobiles, faisant des redirections en boucle. C'est-à-dire, il te dit « Attends, toi, je vais t'envoyer sur la version mobile pour telle marque de téléphone. Non, en fait, je vais te renvoyer sur la version pour ordinateur. Non, je vais te renvoyer sur... T'es là, tu n'y arriveras jamais. Bon, c'est pas la peine. » Parce que faire un vrai site en ce qu'on appelle un responsive web design, c'était plus compliqué que faire trois sites mal foutus. Forcément. Comme la pub rend impossible de lire tranquillement les vitrines de la partie payante que sont les articles gratuits, les gens se tournent vers les extensions gommeuses de publicité comme Adblock, qui est utilisé environ par 15% des lecteurs de sites d'info, ou des applications telles que Pocket, qui nettoient les articles et n'en gardent que le contenu. Alors Pocket, il y a une autre version qui est open source aussi, c'est très bien, c'est on est dans son navigateur, il y a un article qu'on veut lire, qui a l'air super, on clique dessus, on le retrouve après sur son téléphone portable, mais complètement nettoyé, et avec une mise en page propre, lisse, c'est magnifique. Et devant le manque à gagner de ces lecteurs publiphobes, la presse rajoute encore plus de pubs. Une stratégie qui est certes compatible avec les subventions étatiques et la taxe imposée à Google News, mais en totale contradiction avec toute logique. Donc encore plus de pubs, même si le marché publicitaire est en net repli depuis 6 ans. Et puis tant qu'on y est, on va attaquer en justice l'éditeur d'Adblock Plus, hein, parce que... Et puis voilà. Mais avant d'aller plus loin, je dois aller à Confesse sur un de mes précédents emplois. Oui, entre autres crimes contre l'humanité, j'ai aidé à la popularisation des logos et sonneries fantasy portables. En 2000, nous fûmes deux dans une boîte à mettre ce service au point, et le dit service fit plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires 3 ans plus tard. Oui, je plaide coupable, mais je n'en suis pas devenu riche pour autant. Radio FMR ne m'appartient toujours pas. Attirés par l'odeur du fromage, nous eûmes des concurrents et nous avons fait comme eux. Des centaines de spots de pub à la télévision diffusés partout en Europe, en Afrique, en Asie et aux Amériques. Des spots de pub qui détaillaient chaque sonnerie téléchargeable de leur catalogue pendant 1 minute 30. Et là, vous me maudirez mille fois de plus quand je vous aurai remis dans la tête des mélodies comme 8-12-12 ou ne parlons pas de l'immonde. Crazy Frog. Oui, celui-là, je suis sûr que vous l'avez oublié. Ta gueule, toi. Ta gueule.
Tu vois, ça marche pas. Ça marche
pas.
Toujours.
Voilà.
Ça marche pas toujours.
Eh ben, rappelez-vous qu'à l'époque, toute chaîne musicale comportait son quart d'heure horaire de ses publicités. Mmh. Or, l'intérêt d'une radio ou d'une télévision commerciale est de garder son public captif par ses programmes entre chaque page publicitaire, lesquels ne sont pas censés être des repoussoirs, quand même. MTV Network Europe avait à l'époque une dizaine de chaînes musicales qui diffusaient vraiment des clips. Il y avait MTV, MTV Base, la regrettée MTV 2 qui était franchement avec une programmation qui faisait pâlir d'envie la moitié des mecs sur l'éphémère. Eh bien, en 2005, le groupe MTV Networks Europe prit une décision sidérante. Ils ont décrété un moratoire de 4 mois en bannissant toute pub pour des services SMS. Ils ont préféré faire une croix sur plusieurs dizaines de millions d'euros plutôt que de perdre leur public à cause de ces bruits agaçants. Ils ont primé le contenu sur la publicité. Et étonnamment, cela a marché. Les chaînes musicales concurrentes perdirent une grosse part de leur audience parce qu'ils ont continué avec les mains. Et MTV, ils ont récupéré l'audience, ils l'ont revendu plus cher aux annonceurs restants. Alors la presse française se meurt, car ses déclinaisons internet sont dirigées par des commerciaux. Et ils font fuir ou tricher les lecteurs. Ces derniers deviennent convaincus d'une légitimité des attaques contre la pub, faisant crever d'autant plus vite le journal qu'ils lisent. Et donc la presse commence à poursuivre les bloqueurs de publicité. Mais finalement, est-ce que le problème ne vient pas de leur propre dévalorisation de leur contenu ? On en arrivera à voir des journalistes devenus blogueurs ou des journaux à abonnement archi spécialisés mais pas chers, comme Arrêt sur Image ou Mediapart. Mmh. Hélas, la fermeture de Carré d'Info montre que ce modèle a eu aussi quand même une limite, malheureusement. Moi qui suis éditorialiste bénévole et sans pub, je tente l'expérience Flatter, ce qui veut dire que vous pouvez financièrement me dire que vous avez particulièrement apprécié certains de mes billets. J'ai une petite somme, hein, honnêtement, ça ne paie pas le repas, mais... Mais oui, donc ça veut dire ça marche, c'est un modèle qui peut fonctionner. Mais à partir de quand ? Bref, enfant du futur immédiat, l'année 2015 va montrer si la presse française va enfin se bouger et se montrer aussi lisible que ses illustres consoeurs comme The Guardian ou El País. Franchement, allez voir les articles sur leur site, ils sont nettement plus faciles à lire que ceux du Monde, Libé, encore ça passe, ils ont nettoyé. En attendant, moi, je pense qu'il ne faut pas s'étonner si on va vers une génération d'illettrés, si on t'apprend à fuir la presse écrite.
Et ouais, et bravo d'Astrid. En tout cas, c'est vrai que tu as raison, parce que des revues comme Friture, qui basent toute sa stratégie de relance sur les comptes de gêne, on se peut
ça, c'est du racolage, parce que l'autre problème, tu vois, c'est qu'on fait des titres. Cliquez ici pour savoir comment on fait ça.
Et oui, et t'as tout à fait raison, et c'est totalement insupportable. Et encore, tu n'as pas parlé des pauvres personnes qui sont sur Windows, je sais pas trop quoi, et qui se retrouvent envahies de plein de choses encore plus gros, voilà.
Mes écrits sont en licence art libre, donc n'importe qui peut les reprendre, en faire ce qu'il veut.
Ah, tu leur as pas dit ça, Friture ? Pourquoi
si. Je leur ai dit.
Si, si, c'est marqué.
C'est marrant parce que je leur ai dit, Friture, quand ils ont voulu reprendre mes écrits, je leur ai dit, mais faites-le, vous avez pas besoin de mon aide.